Bon, ben, donc bienvenue à ce séminaire Flaubert qui va cette année s'intéresser à Flaubert et l'empire de la bêtise, c'est dire qu'il y a de quoi faire. Et je vais d'abord, avant de présenter le séminaire, présenter dans quel contexte ce séminaire se passe. C'est donc un séminaire ouvert à tous, qui est validable par les étudiants de l'Université Paris 8 et de l'ENS, pour l'Université Paris 8, se situe dans le cadre du master texte, langues, théorie, l'école doctorale pratique et théorie du sens. Donc ce séminaire est lié à l'équipe Flaubert du CNRS, de l'Institut des textes et manuscrits modernes. Nous avons un centre de documentation animé, organisé par Martine Mesureur-Serra, qui est ici présente, qui est ouvert aux chercheurs, qui est ouvert aux étudiants de master, à partir du master, mais même de la licence, s'ils ont des travaux sur Flaubert à faire. Et nous disposons, beaucoup d'entre vous le savent déjà, des photocopies des manuscrits de Flaubert, mais aussi des éditions, de la bibliographie critique, de tirés à part, réunis depuis une trentaine d'années que l'équipe Flaubert existe. Donc c'est une documentation unique au monde et elle vous est ouverte. Donc si vous voulez travailler sur Flaubert, prenez rendez-vous avec Martine Mesureur-Serra et le centre est ouvert l'après-midi de 14h à 17h30 à peu près pour voilà. D'autre part, ce séminaire, nous l'enregistrons depuis quelques années et il figure sur le site de l'ITEM en version audio depuis 2006. Donc nous avons des archives du séminaire depuis 2006. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous reporter sur le site de l'ITEM, hein, c'est www.item.ens.fr et vous cliquez sur séminaire et puis c'est séminaire Flaubert. De même, la base de tout ce dont nous disposons au centre est disponible en ligne, la base bibliographique, sur le site de l'ITEM. Voilà. Alors, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que nous avons fondé une revue en ligne qui s'appelle Flaubert, revue critique et génétique, qui est l'émanation de l'équipe Flaubert, qui est une revue qui s'intéresse aux manuscrits et aux textes de Flaubert, qui a l'originalité de présenter des dossiers thématiques, mais aussi d'accueillir en flux continu des articles qui sont placés dans des rubriques qui pourront se développer au fur et à mesure de la thématique des articles. Ces articles sont soumis à un comité de lecture, donc c'est une revue sérieuse qui aura probablement une retombée papier bientôt. Mais déjà, cette revue possède un numéro, un dossier thématique qui est paru en janvier sur les nouvelles recherches critiques et génétiques sur Flaubert. Plusieurs articles, cette revue accueille aussi des comptes rendus. Et nous avons une rubrique actualité tenue par Martine Mesureur qui recense les événements flaubertiens, les publications, toute l'actualité culturelle flaubertienne et l'actualité scientifique. Alors, je vous invite à consulter cette revue. Le prochain numéro, dirigé par Philippe Dufour, sur Flaubert lecteur, sera mis en ligne début décembre. Et récemment, on a mis en ligne un article que j'ai fait à propos du discours des comices et un article de Pira Wise sur Proust et Flaubert. Donc, reportez-vous à cette revue. Nous avons édité des petits bulletins je vais en faire circuler un et on en a imprimé à votre disposition qui vous donne le descriptif et le site de la revue. Disons que nous sommes attachés à la dimension internationale de la revue. C'est une revue dans laquelle on peut publier en principe en français, mais aussi dans une autre langue. Et c'est une revue qui est ouverte aux jeunes chercheurs, c'est-à-dire qu'un des principes de fondation de la revue a été d'ouvrir d'ouvrir un lieu de publication pour des gens qui sont des jeunes doctorants ou qui ont fait un excellent master. Ces articles sont soumis à un comité de lecture. On n'a pas fait de rubrique spéciale pour les jeunes chercheurs. Si l'article est bon, cet article est validé et paraît dans la revue. Voilà. Alors, dernière chose pour cette revue, il y a la possibilité, nous ne l'avons pas encore mise en service, mais ça va être mis en service probablement d'ici un mois, nous avons la possibilité d'avoir une lettre d'information, dite newsletter en anglais, mais je pense que lettre d'information ça va aussi, par laquelle, disons, de façon, dans une périodicité mensuelle, nous pouvons vous tenir au courant des dernières parutions, des dernières actualités, des choses, vous dire allez voir la revue, il y a quelque chose de nouveau. Donc il faut bien sûr, vous connaissez le principe, s'inscrire soi-même, c'est-à-dire qu'on ne pouvons pas vous préinscrire. Donc si la revue vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site de la revue, vous abonner à cette lettre d'information, et vous pouvez, si cela ne vous plaît pas, vous désabonner, ce n'est pas du tout forcé. Donc ça, nous allons faire circuler cela, de même que le programme, j'en parlerai tout à l'heure en fin de présentation du séminaire, le programme du séminaire Flaubert, qui a été légèrement modifié. Et alors, j'appelle bien sûr les jeunes chercheurs à travailler sur Flaubert. Il y a la place pour des thèses sur Flaubert, il y a même un moment... Il y a eu beaucoup de thèses dans les années 90. Il y a quelques thèses actuellement, d'excellentes thèses en cours qui vont donner de très beaux livres. Mais il y a la place justement pour les jeunes chercheurs. Il y a un centre de documentation, une revue, et je pense que ça peut être intéressant pour les jeunes chercheurs. Dernière série d'informations sur les parutions récentes que je vais faire circuler parmi vous. Alors, Barbara Winkel qui nous fait plaisir d'être ici, a deux publications. Un colloque qui a eu lieu à Venise en 2006, je crois, ou 2008, je ne sais plus, enfin, disons, il y a quelques... Voilà. Le Flaubert réel, et 2006, dit Déborah, hein, qui sait de quoi elle parle, parce qu'elle a... c'est fort intéressant, je le fais circuler. Et Barbara Winkel vient de publier en allemand Flaubert Durchkreuzte Moderne, excuse-moi, mais bon, c'est ce que je peux faire. C'est mon allemand deuxième langue. Et je le fais circuler aussi. Philippe Dufour. On a traduit la quatrième de couverture et la table des matières, et cela figurera dans la revue Flaubert. Donc nous essayons de nous faire l'écho des nouvelles parutions, soit par des notes de lecture, soit par des comptes rendus plus approfondis, soit en signalant déjà la table des matières. Et nous avons, pour montrer notre intérêt pour les recherches internationales, nous avons fait un compte-rendu, Lucius Keller a bien voulu faire un compte-rendu du livre de Elit Solinger sur Arachné, et vous pouvez le lire en ligne en français, de ce livre qui est en allemand. Tout le monde n'est pas germaniste et ça permet d'accéder à d'excellents travaux, et Elit Solinger aussi a participé au séminaire Flaubert. Vous voyez, je fais d'autopublicité, mais après tout, il faut en profiter. Deuxième référence que je fais circuler, un très bon livre dirigé par Martine Boyer-Weinmann et Jean-Pierre Martin, Colère d'écrivain, paru chez Cécile Defaux, avec deux articles sur Flaubert. Un article sur Flaubert, de Martine Boyer-Weinmann sur Flaubert et les colères de Flaubert et Baudelaire, et aussi un très bel article de Jacques Neffs sur les colères de Flaubert. Je vous fais passer également. Enfin, là, c'est encore de l'autopublicité, mais
si je ne la fais pas, l'éditeur visiblement ne la fait absolument pas. J'ai coordonné un numéro de la revue Œuvres et Critiques, qui est une revue que peu de gens connaissent, mais qui est une revue très sérieuse, qui s'intéresse à la réception des œuvres. Et cette revue Œuvres et Critiques est consacrée aux écrivains contemporains lecteurs de Flaubert. Donc plusieurs d'entre nous qui sont ici présents, mais qui sont aussi loin, ont participé à ce numéro. Il y a un texte de Pierre Bergougnoux qui a fait son exposé au séminaire Flaubert, Jacques Neff sur Bouvard et Pécuchet, moi-même sur Roland Barthes et Bouvard et Pécuchet, Suzy Pietri sur Calvino lit Flaubert, Gisèle Séginger sur le Flaubert de Claude Simon et Tiphaine Samoyo, ce titre provocateur, on ne se souvient pas de Flaubert pour dire qu'en fait Flaubert est toujours présent en nous, sur les avatars contemporains de Flaubert dans la littérature toute contemporaine. Donc je le fais circuler, et je fais circuler aussi éventuellement un bon de commande pour vos bibliothèques, parce que c'est assez cher, et voilà. Et puis j'en ai mis là, donc vous aurez circulant le programme du séminaire Flaubert avec un rectificatif pour le séminaire de la fois suivante, j'en parlerai tout à l'heure, et des petites affichettes pour la revue Flaubert et pour la revue Œuvres et Critiques. Voilà. Donc, je pourrais voir à la fin de la séance, ou bien ils peuvent m'écrire par Internet, les étudiants qui souhaitent valider le séminaire par un travail dont je m'entretiendrai individuellement avec eux. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Françoise Gaillard, mais auparavant, excuse-moi, je voudrais présenter un peu de façon dans l'ensemble de la problématique de l'empire de la bêtise. Je ne serai pas longue et nous ferons une brève pause de 5 minutes entre les deux exposés. Voilà. Alors, donc l'empire de la bêtise, vous l'avez bien compris, c'est au double sens du pouvoir, de l'emprise que la bêtise peut avoir sur nous tous, et au sens de son extension infinie. La question de la bêtise, je le disais dans la présentation, traverse toute la vie et l'œuvre de Flaubert. Les Flaubertiens ont coutume de citer cette lettre de Flaubert à son ami Chevalier du 1er janvier 1831. Comme il y a une dame qui vient chez papa et qui nous compte toujours deux bêtises, je les écrirai. Hein. Et il a tenu sa promesse, hein, on le sait bien. Commençant à travailler pour le projet de Bouvard et Pécuchet en 1872, donc 40 ans plus tard, il dit « Ce sera une espèce d'encyclopédie de la bêtise moderne. » Vous voyez que le sujet est illimité. Hein. Et à Raoul Duval, « Vous me parlez de la bêtise générale, mon cher ami, je la connais, je l'étudie, c'est là l'ennemi, et même il n'y a pas d'autre ennemi. Je m'acharne dessus dans la mesure de mes moyens. L'ouvrage que je fais pourrait avoir comme sous-titre « Encyclopédie de la bêtise humaine ». Alors, vous le savez, il y a toute cette tradition au XIXe siècle de critique du bourgeois, avec le personnage de M. Prudhomme qu'a instauré Henri Monnier. C'est intéressant, c'est à la fois un personnage littéraire, un personnage de livre, mais aussi un personnage de caricature. Donc son image hante le XIXe siècle et donne sa figure, son emblème au bourgeois du XIXe. Mais chez Flaubert, il a bien évidemment pris un absolu. Alors cette critique de la bêtise, je ne serai pas très longue, mais je voulais juste la situer quand même historiquement, elle devient omniprésente au XVIIIe siècle. Elle est bien sûr d'une tradition qui remonte loin. Mais je vous renvoie volontiers à un très bel article de Jean-Marie Goulmeau dans un ouvrage des années 80, de la bêtise et des bêtes. C'était une revue qui était très bien, Le temps de la réflexion chez Gallimard. Et dans cet article intitulé « Philosophie des Lumières et royaumes de la nuit », Jean-Marie Goulmeau précise que le combat des Lumières s'identifie justement avec le combat contre la bêtise, identifié au combat de la raison, hein, contre les croyances religieuses, la superstition, les préjugés, les erreurs populaires. Je cite « La bêtise, c'est le discours de l'autre quand il diffère de celui qui fonde la raison. Et les Lumières se pensent comme le contraire de la bêtise. » Alors, c'est quelque chose par rapport auquel... c'est une tradition dans laquelle Flaubert se situe, mais bien sûr, en la renversant, dans la mesure où, chez Flaubert, la bêtise n'est pas seulement l'autre. Elle est bien sûr le bourgeois, mais elle est aussi l'autre qui est dans soi-même. Le dictionnaire des idées reçues, à l'article « Imbécile », écrit « Ceux qui ne pensent pas comme vous ». Donc il y a bien sûr cette tradition des Lumières qui est celle de Flaubert, mais ce renversement. À la fin du XVIIIe siècle, il y a quelqu'un que citera probablement Françoise Gaillard, qui est Jean-Paul, avec son éloge de la bêtise sur le modèle d'Érasme, de l'éloge de la folie. Et Jean-Paul établit un déplacement en montrant que la bêtise est du côté de la croyance du sot, c'est-à-dire la croyance heureuse, celui qui est autosatisfait. C'est un peu ce que souligne Alain Roger dans son livre « Bréviaire de la bêtise », cette idée de l'autosatisfaction du sot. Je vous citerai juste un petit passage. « Je rends l'idiot heureux autant par sa tête que par son cœur. Certes, je ne lui donne pas la sagesse, mais la croyance qu'il la possède. Le manque de sagesse le protège contre tous les dangers qui font sombrer le penseur dans les maux temporels et éternels. Il ne s'aventure jamais sur l'océan du doute pour naviguer vers la terre de vérité. Il ne lit jamais d'autres livres que ceux qui bercent son âme d'espoir et son corps de sommeil. C'est pourquoi il est toujours paisible, car il est trop aveugle pour voir quoi que ce soit de redoutable. C'est pourquoi il est toujours égal à lui-même dans ses opinions. » Vous vous rappelez, Monsieur Prudhomme, c'est mon opinion et je la partage. Alors, et Jean-Paul termine, il ne connaît que celle auquel il croit. Donc il y a cette idée de la croyance qu'on va trouver chez Flaubert, mais cette idée que finalement la bêtise est du côté de l'erreur, alors que pour Flaubert, la bêtise n'est pas du côté d'une opposition entre erreur-vérité ou esprit-intelligence. Il dit « La bêtise n'est pas d'un côté et l'esprit de l'autre, c'est comme le vice et la vertu, malin qui les distingue. » Voilà. Et Roland Barthes reprendra tout cela en soulignant que, bien sûr, la bêtise, c'est la bêtise qui est d'abord celle qui nous colle, le stéréotype qui nous empoisse et qui est en nous. Alors, je voudrais souligner un second point qui a aussi comme point de départ ce développement de Jean-Marie Goulmeau. Il montre que les lumières de la raison se construisent contre la nuit de l'animalité, hein, la nuit de l'animalité, de la bestialité. Et il me semble que Flaubert ne partage pas cet optimisme des lumières, ni cette idée qu'on a un progrès par les sciences et par les techniques. Flaubert est assez pessimiste, mais en même temps, ce pessimisme se double d'une prise en compte de la bêtise, au sens de la bêtise de félicité, c'est-à-dire ce qu'il peut y avoir d'animal en l'homme. Ça, c'est le côté doux de la bêtise. C'est à la limite l'idiotie de Marcel dans Bouvard et Pécuchet. Donc il faudra prendre en compte dans le séminaire. Mais je pense aussi au retour du refoulé et à la bestialité. Cette bestialité qui est la violence des hommes, qui est la violence de la nature, que la raison doit dominer et que la raison ne domine pas comme on le voudrait. C'est la bestialité du père Roch, hein, dans l'éducation sentimentale, la brutalité des épiciers, hein, comme dit Flaubert dans ses brouillons, le cannibalisme. Hein, voilà. Et puis, dernier point, et que j'ai abordé là, c'est la dimension éthique de la bêtise et la dimension politique, parce que chez Flaubert, La question de la bêtise touche celle de la foule et du nombre, celle de la possibilité de voter, du suffrage universel et de la démocratie, la question donc politique de la démocratie et de l'ignorance, celle du consensus aussi. Hein, moi, je travaille actuellement avec mes étudiants sur l'éducation sentimentale, donc je le relis de près, et c'est très frappant de voir dans les conversations, que ça soit de gauche, entre guillemets, ou de droite, la formulation « tous déclarèrent hein, ». Tous déclarèrent. Et ça, ça revient, et c'est, on sent que Flaubert se raidit devant ce « tous déclarèrent », le « tous » du consensus, du nombre. Hein. Voilà. Alors, je dis deux mots de cette année sur Flaubert et la bêtise. Donc, nous essaierons d'interroger la question de la bêtise avec donc tout de suite l'exposé de Françoise Gaillard, petit éloge de la bêtise. Pierre-Marc de Biasi aussi interviendra de façon générale en ce sens en janvier. Jean-François Louette reviendra sur la relation de Sartre et de Flaubert, l'idiot de la famille. Et j'ai oublié de vous citer, mais ça je le fais maintenant, à propos de la bêtise de l'intelligence, ce très savoureux petit livre de Pierre Pachet que je peux faire circuler si vous voulez, que j'ai relativement récemment découvert, mais qui est très savoureux. C'est un commentaire d'une statue, d'une sculpture de Jean-Louis Faure, qui est une sculpture représentant un événement imaginaire, mais qui s'ancre sur le contexte de la guerre froide. C'est dans un seul bloc, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir refusant de tendre la main à Arthur Koestler. Alors tout le commentaire de Pierre Pachet tourne autour de cette question des relations entre Koestler, l'attitude du couple Sartre-Beauvoir au moment de la déstalinisation, etc. Donc tout ce refus de croire ce que disait Koestler, et voilà. Donc vous pourrez le regarder si ça vous intéresse, mais c'est savoureux. Alors donc la relation Sartre-Flaubert en la personne d'un grand spécialiste qui est Jean-François Louette. Et puis nous parlerons de Bouvard et Pécuchet, bien sûr, comme un fil rouge de notre séminaire. Claude Mouchard en parlera, Jacques Nefs et moi-même, et nous espérons que à la dernière séance du mois de juin, nous passerons le téléfilm Jean-Claude Carrière, et nous espérons la présence de Jean-Claude Carrière, qui a été le scénariste de ce téléfilm. Et donc ce téléfilm sera l'occasion d'une table ronde, d'une discussion. Loïc Vindels nous parlera aussi de la bêtise et de la mélancolie. Et j'annonçais la séance de la semaine, du mois prochain. Alain Roger, malheureusement, est dans l'impossibilité d'assurer la séance qu'il devait faire « Comment la bêtise est-elle possible ?», qui est une interrogation que Gilles Deleuze pose dans « Différence et répétition », et que Alain Roger reprend dans son livre « Bréviaire de la bêtise ». Et nous avions prévu une séance de discussion sur les idées reçues, et donc nous plaçons cette séance, cette table ronde qui réunira Pierre-Marc de Biasi, Françoise Gaillard et moi-même, et vous-même, hein, nous en discuterons donc au mois de décembre. Je voudrais juste terminer, avant de faire une pause et de laisser parler Françoise Gaillard qui va nous faire cette conférence, je voudrais terminer sur cette phrase de Laurel à Hardy, citée par Alain Roger dans « Bréviaire de la bêtise », et que je trouve assez savoureuse. « Je ne suis pas aussi bête que tu en as l'air. » Voilà. Nous prenons 5 minutes juste.